Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Parce qu'en immobilier, faut être à son affaire. Suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
IGA est fier de présenter l'émission À vos affaires. Pour économiser sur votre panier d'épicerie, surveillez les offres et promotions de la circulaire disponible à IGA.net chaque semaine. IGA, vive la bouffe et les bonnes affaires.
Cube Radio. Yasmine Abdel-Fadel. Une animatrice hors norme, aussi percutante que l'actualité. Grande stratège, elle décortique les messages et analyse les non-dits. Méthodique, elle regarde chaque détail à la loupe.
Cube Radio, Cube Radio.
Surprenante, improbable, décapante. Elle ne laisse personne indifférent. Yasmine Abdel-Fadel.
Recevoir les migrants irréguliers dans la dignité. C'est ce qu'on s'était promis, là, collectivement, c'est que dorénavant, nous, on veut recevoir les migrants irréguliers dans la dignité. On veut leur donner une vie. On veut qu'ils puissent rapidement travailler. Qu'ils puissent jouir de liberté. Qu'est-ce qu'on apprend ce matin dans le Journal de Montréal? Eh bien, qu'ils sont entassés dans des hôtels, un peu partout. Il y en a plus de 3000 qui sont logés à l'hôtel. Et là, vous allez me dire, c'est pas une vie de misère d'être à l'hôtel. Non, j'en conviens. C'est pas une vie de misère que de vivre à l'hôtel. Problème là-dedans, c'est que, premièrement, on leur donne pas les moyens de pouvoir se construire une vie. Le permis de travail ne vient pas assez rapidement. Ils restent là à attendre dans l'hôtel le temps d'avoir de l'argent pour aller se payer un logement et pouvoir reprendre le cours de leur vie. Et on leur sert des repas servis froids. On leur demande de les chauffer au micro-ondes. C'est pas des chiens, là. C'est pas des prisonniers. C'est du monde qui en ont vécu des drames avant d'arriver ici. Et oui, on devrait le fermer, le chemin Roxham. Mais ceux qu'on a ici, là, ceux qui ont traversé cette frontière-là puis ce chemin-là, c'est pas à eux de payer pour le manque de sérieux, le manque de rigueur du gouvernement fédéral. Ils sont là, il faut qu'on puisse agir avec eux en toute dignité. Ils sont soumis à toutes sortes de règles dans ces hôtels-là. Écoutez, ils ont un couvre-feu, 22h ou 23h pour tout le monde. Ils doivent être dans leur chambre. Ils peuvent même pas aller dans une autre chambre. La piscine est interdite pour les migrants. C'est restrictif. Et je ne sais pas à quel point on pourrait accepter ça pour n'importe quel autre citoyen. Pourquoi on accepterait qu'il y ait des gardiens de sécurité qui surveillent ces migrants qui ne peuvent pas aller à la piscine, qui doivent être dans leur chambre d'hôtel des mois durant avant 22 heures? Ils peuvent pas aller dans la chambre de leurs amis, là, dans le même hôtel. Ça me rappelle, moi, mes voyages au secondaire. Honnêtement, j'ai l'impression qu'on est en train de rompre une promesse que l'on s'est faite, celle de les recevoir dignement. Je comprends que c'est à nos frais. Et c'est pas parce que c'est à nos frais qu'on doit laisser de côté les règles de bon sens et de les traiter avec humanité, avec dignité, comme on voudrait être traité si on était dans la même situation.
Vous écoutez Yasmine Abdel-Fadel.
Cube Radio. Cube Radio.
Le coût d'un panier d'épicerie a explosé. On le sait, on le voit, on le vit à chaque semaine, certains même à chaque jour. Et ça a un impact pas juste sur nous, les adultes, particulièrement chez les enfants qui sont de plus en plus nombreux à arriver à l'école le matin, le ventre vide. faute de capacité du ménage d'offrir un petit déjeuner nutritif pour les enfants. Et un élève qui va à l'école le ventre vide, ça fait pas un élève ben ben fort et ben ben réceptif à l'apprentissage. Qu'est-ce qu'on peut faire? Quel est l'état de situation? On en parle avec Claudine Dessureau, porte-parole et conseillère aux achats et à l'inventaire au Club des petits déjeuners. Bonjour, Madame Dessureau.
Bonjour, Jasmine.
Expliquez-nous quel est l'état de situation et comment ça a évolué dans les derniers mois.
Donc, je vous dirais, peut-être pas juste dans les derniers mois, parce que l'inflation nous pend au bout du nez depuis plusieurs mois. Donc, nous, l'année passée, en fin d'année scolaire, on a pris une malheureuse décision de voir pour prévenir l'inflation et le coût des transports. Donc, on a décidé de maintenir nos programmes existants. Donc, on est dans plus de 500 écoles au Québec. Donc, c'est 79 000 enfants qu'on nourrit tous les jours et on a décidé cette année, de ne pas ajouter d'écoles supplémentaires, de ne pas ajouter justement notre réseau pour conserver le soutien qu'on offre à nos écoles et assurer que malgré les mois et le coût des aliments, le coût de transport qui augmente, bien, on puisse conserver leur soutien qu'on leur a promis et qui est essentiel.
Je tombe en bas de ma chaise quand j'apprends qu'au Canada, un enfant sur trois est à risque d'aller à l'école le ventre vide. Est-ce que vous pouvez confirmer aujourd'hui qu'il y a encore des enfants, malgré le fait que le Club des petits déjeuners veuille aider tout le monde, là, mais il y a aujourd'hui des enfants qui vont à l'école en ayant faim?
En effet, des fois, ça peut paraître un peu surprenant parce que on est justement un pays nord-américain et tout ça, mais il y a différentes raisons quand même pour qu'un enfant arrive à l'école le ventre vide. Et oui, il y a l'aspect socio-économique, mais il y a l'aspect aussi des voyages en trajet d'autobus très longs, des routines matinales chargées, le manque de variété d'aliments, le manque d'aliments soutenants, des urgences familiales ou même la santé mentale des familles parfois qui font que le matin, ce sont des moments qui peuvent être très, très, très bousculants. Et nous, dans notre action, notre soutien qu'on offre aux écoles, on a vraiment un tampon entre le matin et le début des apprentissages, parce que oui, en effet, toutes ces raisons-là font qu'à l'heure actuelle, il y a encore des élèves qui arrivent le ventre vide. Et on parle présentement quand même de 668 écoles là, qui pourraient avoir accès à un programme de petit-déjeuner via notre soutien. C'est pas encore répondu et c'est pas cette année là, qu'on va pouvoir le faire de notre côté.
Le fait que vous n'ayez pas été en mesure d'accroître le nombre d'établissements, le nombre d'enfants couverts dans le programme, est-ce que c'est à cause de la demande qui a complètement explosé ou est-ce que c'est à cause du prix des aliments qui a lui aussi explosé?
En fait, en tant qu'organisme qui, dans le fond, nous, on travaille avec plusieurs parties prenantes. On a les entreprises privées, on a les gouvernements, on a le public qui nous appuie. Et c'est très important pour nous de ne pas faire des promesses brisées, c'est-à-dire d'ouvrir des milieux, de soutenir des élèves et ensuite de voir les laisser tomber. Donc, on a dû faire cette décision-là pour être prudent. Par contre, ça ne veut pas dire qu'on a arrêté de travailler en arrière-scène pour militer sur les besoins qui ne sont pas encore répondus et de marteler le message que nous, en ce moment, on ne peut pas y répondre par faute, assurément, oui, de financement, mais c'est certain qu'il y a aussi toute la que nous, on travaille très fort pour militer pour un programme d'alimentation scolaire universelle au Québec pour justement amener non pas un filet là, rempli de trous en dessous de nos enfants au Québec, mais un plancher solide qui leur permettrait de tous avoir accès à une alimentation saine en début de journée.
Madame Dessureau, votre appel doit être entendu. C'est important de nourrir nos enfants si on veut faire en sorte qu'ils puissent profiter du moment dans lequel ils sont à l'école pour apprendre. Un ventre vide ne permet pas une tête d'apprendre. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je rappelle que Claudine Dessureau, porte-parole et conseillère aux achats et à l'inventaire au Club des petits déjeuners.
Merci beaucoup.
Yasmine Abdel-Fadel.
Pour nous rejoindre en studio.
Studio à commercial cube.radio. Appelez ou textez.
187 Cube Radio.
1877 827 2346.
Les jeunes de la grande agglomération de Longueuil auront cette année encore accès au camp de jour des apprentis policiers du service de police de l'agglomération de Longueuil. C'est un camp de jour pour ceux qui s'intéressent au métier de policier. On en parle avec Audrey Desaulniers, agente de police. Bonjour, Madame Desaulniers. Madame Desaulniers?
Oui.
Oui, bonjour. Alors, expliquez-nous, c'est quoi le programme camp de jour des apprentis policiers?
C'est un camp de jour que j'ai mis sur pied avec deux de mes collègues en 2018. On a répété là, l'exercice en 2019 également. Par contre, là, dû à la pandémie qu'on a fait face, on a dû prendre une petite pause. Par contre, on revient cette année là, avec probablement la même formule, étant donné là, l'engouement de la population face au camp. Donc, il s'agit d'un camp de jour d'une semaine qu'on prend en charge à 100% là, les jeunes de sixième année, qui demeurent sur notre territoire pour leur faire découvrir l'ensemble des sections du service de police. On visite également certains partenaires là, avec qui on a affaire là, dans le cadre de notre travail, que ce soit les pompiers, les ambulanciers. On va également faire une visite à l'École nationale de police à Nicolet.
Wow.
Et on fait aussi là, plusieurs activités, là, comme je vous dis, là, avec ces partenaires-là pour faire découvrir notre métier aux jeunes.
Ultimement, qu'est-ce qu'on cherche à faire? Quel objectif on poursuit en mettant en place un camp de jour de la sorte?
Dans le fond, c'est pour créer une proximité avec les jeunes, leur faire découvrir là, notre métier, puis leur faire comprendre la réalité là, qu'on peut faire face quand on exerce ce métier-là.
Combien de, grosso modo, par année, d'élèves suivent le programme?
Dans le fond, à chaque année, on sélectionne 12 jeunes qui nous ont écrit préalablement une lettre de motivation qui nous explique pourquoi ils voudraient passer une semaine avec nous. Donc, on sélectionne 12 jeunes et on les prend en charge là, à 100%.
Ceux qui ont participé les années précédentes, comment ils ont vécu ce camp-là et comment ils ont, finalement, quel impact ça a eu sur eux et sur leur perspective d'avenir et les métiers sur lesquels ils aimeraient se concentrer?
C'est drôle que vous posiez cette question-là parce que récemment, on a eu des nouvelles d'un jeune qui avait fait le camp en 2019, qui était maintenant rendu là, en secondaire 5, qui voulait toujours devenir policier, puis qui nous a demandé là, de faire une journée carrière avec nous là, dans le cadre de ses études. Donc, ça démontre là, l'intérêt qu'on peut leur faire grandir là, à travers les années en leur permettant là, de vivre cette semaine-là avec nous. Là.
C'est espérant que vous allez être en mesure d'accueillir le maximum de jeunes possible. Je vous souhaite une bonne chance pour ce camp-là et j'espère que les jeunes vont prendre goût au métier de policier et à ces métiers pour lesquels on sera jamais assez reconnaissant. Audrey Desaulniers, agent de police, merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Merci beaucoup. Bonne journée.
Des analyses sur le monde sans frontières. Savoir et comprendre l'international. Guillaume Lavoie.
J'aimerais parler de politique internationale, mais on va plutôt parler de cinéma.
Oui, on pourrait dire ça. Écoute, je m'en viens te parler du Top Gun des pauvres.
Le Top Gun version Wish.
Ah, c'est presque du grand n'importe quoi, mais on va voir qu'il y a plus de choses là, derrière ça. Alors, en gros, là, voici ce qui s'est passé. Vous allez voir ça sur tous vos écrans. Là. À moins que vous soyez caché en dessous d'une roche, là, vous allez en entendre parler pendant des jours. Il y a des drones américains. Et là, juste pour vous donner une idée, c'est pas les drones que vous voyez là, sur YouTube. Là. C'est un drone qui coûte à peu près 16 millions de dollars, qui peut être équipé de missiles et tout, mais là, c'est un drone en opération de surveillance, donc il y a des caméras partout là-dessus. Et pour vous donner l'idée de la taille, quand vous écoutez un match de tennis, là, c'est comme toute la portion entre le joueur et le filet. Donc, c'est la moitié d'un terrain de tennis. Là. Ça ne rentre pas dans votre stationnement de garage. Les ailes font à peu près 20 mètres de large. Là. Alors, c'est quand même pas mal. Et il est en train de patrouiller au-dessus de la mer Noire. Donc, c'est proche de l'Ukraine, bien sûr, mais en territoire international. Et il y a deux avions de combat russes qui se décident, tiens, on pourrait énerver le drone. Et ils se mettent littéralement à décharger du carburant sur le drone. C'est ça leur tentative. Là.
Ils veulent le noyer.
Ils veulent le noyer dans les airs pour le faire chuter. Et là, quand on analyse, parce que là, on a les images, l'armée américaine a laissé les images aller, et là, on a les images, et ce que l'on voit, c'est qu'ils s'essaient à au moins deux reprises. Donc, la surveillance, elle est délibérée, les essais pour relâcher le carburant est délibéré, mais ils l'ont accroché.
Mais on ne l'a pas accroché parce qu'on voulait l'accrocher.
Ça, probablement que c'est plus accidentel. Et il doit y avoir un bout là, entre les armées de l'air là, à travers la Terre. Comment faire passer les pilotes russes pour des amateurs là, qui ne sont pas capables de conduire? C'est vraiment ça. Ils l'ont accroché et là, finalement, le drone est tombé en mer. Alors là, il y a plein de choses là-dedans. D'abord, un drone de l'armée américaine, c'est pas un avion de papier, là.
Non.
C'est un drone de l'armée américaine qui est attaqué délibérément, ne serait-ce que par accident, par l'armée russe. Alors, là, il y a eu quelques appels qui se sont faits parce que tout le monde s'est dit, là, faudrait peut-être essayer d'éviter que ça dérape. Là. C'est pas une attaque de l'armée russe à l'armée américaine. Alors, mais quand même, le secrétaire ou le ministre de la Défense américain, le secrétaire de la Défense, a appelé son homologue russe en disant « Hey, qu'est-ce qui se passe? » Le chef de l'armée, le premier militaire américain, a appelé pour dire « Hey, là, arrêtez vos niaiseries. » Alors, l'armée de l'air russe a l'air d'une gang d'amateurs. Mais là, la grande question, c'est comment ça va être interprété au plan politique?
Ben, c'est ce que j'allais te demander. Sur le plan diplomatique, ne penses-tu pas, Guillaume, que c'était voulu de faire un petit geste comme ça de manière à voir les Américains sont prêts à aller jusqu'à où?
Mais ça, c'est le bout qu'on ne sait pas. C'est-à-dire à quel point c'était une stratégie là, délibérée qui est partie d'en haut, là, un général qui se dit, bon, parce que c'est pas nouveau que des avions russes, on appelle ça faire le miroir ou les suivre, là, même si on est en eau internationale, ça arrive. De vouloir essayer de décharger du carburant sur un autre appareil en plein vol, c'est juste imprudent, amateur, stupide. De l'accrocher, bien, c'est sûr qu'à force de...
C'est pas bon, là.
À force de jouer avec le feu, tu peux te brûler, là. Alors ça, c'est arrivé, puis là, on est chanceux, on est au-dessus de la mer, ça aurait pu être au-dessus de certaines populations, alors il n'y a rien qui est bon là-dedans. Alors, jusqu'où c'était prévu, cette chose-là? Parce que là, dans les excuses de la Russie, c'est pas vraiment arrivé. Mais là, c'est parce qu'on l'a vu, tout le monde qui a accès à Internet l'a vu dans la vidéo. Ensuite, les États-Unis, ils n'ont pas vraiment d'affaires là parce qu'il y a une guerre en Ukraine. Eux nous disent qu'ils ne sont pas impliqués officiellement. Et puis, ben ça, c'est une zone, là, comme l'Ukraine a grandi, là. Là, c'est une zone périphérique à l'Ukraine. Là, t'as envie de dire, réécrire le droit international juste d'un bord de la table, ça fonctionne pas toujours comme
non.
Ça. Là. Personne n'y a vraiment cru. Moi, ce que j'ai très hâte de voir, et là, Yasmine, je dois te dire que j'ai plus de points d'interrogation que de réponses, c'est quelle va être l'interprétation politique de ça aux États-Unis? On en a parlé ensemble qu'il y a, au Parti démocrate, mais au Parti républicain aussi, des fractures sur l'Ukraine. Là. Pas encore exactement au milieu, mais il y a une frange importante qui commence à dire « Hey, on n'est pas européens, nous, qui s'arrange donc? On a-tu vraiment besoin de mettre autant d'argent là? » Alors, est-ce que ça va être interprété comme « Hey, si des avions russes peuvent se permettre d'écœurer des drones américains, ça doit être parce qu'on a l'air plus faible qu'on devrait l'être, donc c'est la faute à Joe Biden, puis il n'est pas un bon commandant en chef. » Ou est-ce que ça va fouetter le moral ou la fierté américaine en disant
« On se laissera
là,
pas
là, c'est pas vrai qu'on va se faire...
manger la laine sur le dos. »
Ou envoyer du carburant
sur bourrer,
les oreilles.
Là, tu sais,
exactement, oui, c'est ça. Alors ça va être... Comment est-ce que ça va être joué? Alors, on veut être sûr que ça déborde pas au plan militaire. Ça pourrait, parce que ça arrive des erreurs. Dans l'histoire, il est déjà arrivé que même des avions passagers ont été abattus parce qu'ils ont été confondus avec des avions militaires. Lorsque ça arrive dans les règles de l'art, il y a une enquête, il y a une responsabilité qui est prise, il y a même une compensation qui est offerte, puis là, ça amène à des conversations.
Il n'y avait pas un avion, d'ailleurs, qui est relié à l'Ukraine, là, qui...
Oui, mais là, et ça, c'est l'affaire qu'on ne sait pas encore, mais par exemple, il est arrivé des cas au-dessus, souvent, là, dans le coin de l'Alaska.
Oui.
Sinon, c'est toujours des vols entre l'Asie du Sud-Est et les États-Unis ou l'Amérique du Nord. Ça, c'était arrivé. Mais là, la grande question, c'est est-ce que les Russes pourraient dire, mais c'est arrivé, c'est une excuse, la facture, c'est 16 millions de dollars. Et là, l'armée américaine se dépêche de dire, mais on a déjà tout effacé ce qu'il pourrait y avoir. Mais là, dans un exercice de propagande assez fascinant, parce que Il y a des centaines et des centaines de mètres de profondeur là où le drone serait tombé. Et là, les Russes se dépêchent pour aller essayer de retrouver l'appareil. Est-ce que c'est pour le montrer, hein, dans un exercice de propagande? Puis là, les États-Unis ont tout de suite dit, ils peuvent, en gros, ils vont peut-être trouver des morceaux, là, mais tout ce qu'il y avait d'intéressant, on l'a déjà effacé, là. Alors, ça va être intéressant de voir comment, au plan politique, tout ça va jouer.
Restons dans ce fabuleux monde de la Russie, de l'Ukraine. Eh bien, la base militaire de Sébastopol pourrait être un enjeu de négociation.
En gros, là, si vous pouvez, j'ai envie de vous dire, voici une bonne recette. Si vous voulez avoir l'air brillant du 18e au 19e, au 20e et au 21e siècle, et on vous pose une question sur la relation entre la Russie et l'Ukraine, dites, il y a la Crimée qui est un enjeu particulier. Sur quatre siècles, là, ça se tient, ça. Et là, j'ai retrouvé une citation, c'est du prince Potemkin, avant qu'il devienne un cuirassé, là, qui disait à l'impératrice Catherine la Grande, « La Crimée, saisir la Crimée, impératrice, ça vous assurera la gloire éternelle. La Crimée, ça va vous assurer la domination sur la mer Noire, puis un peu la mer d'Azov. Et la Crimée, Madame l'impératrice, la Russie a besoin de son paradis. » Ça, on est au 18e siècle, là. L'obsession de la Crimée dans le psyché russe s'est ancrée très, 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 très profondément. D'ailleurs, quand Vladimir Poutine a fait l'annexion de la Crimée, c'est probablement le summum de sa popularité réelle en Russie. Il y avait l'impression de s'inscrire, parce que Poutine se voit comme la réincarnation, au sens politique du terme, de Pierre le Grand. C'est un tsar. C'est pas un dirigeant du parti communiste, c'est un tsar. C'est comme ça qu'il fonctionne. Alors, la Crimée est l'enjeu des enjeux. Et là, le mois de mai et juin s'en viennent. On pense que c'est là où l'Ukraine pourrait faire sa contre-offensive. Dans l'Est, les Russes font pas vraiment de progrès. Un des scénarios, parce qu'il faudra un jour négocier avec Vladimir Poutine, évidemment, c'est de reprendre la Crimée pour après ça avoir quelque chose à négocier. Parce que c'est vrai qu'il y a une population beaucoup plus pro-russe en Crimée. C'est pas une raison pour l'annexer sans le dire de manière unilatérale.
Non, il n'y a pas eu de référendum, puis de quand du oui, puis quand du non, qui ont décidé que de s'annexer.
Exactement, là. Alors, on dit, bien, si je reprenais la Crimée, peut-être que ça me donnera quelque chose à négocier, parce que les Ukrainiens n'ont rien à offrir en échange, là. Mais au bout de la Crimée, depuis très, très, très longtemps, il y a, même si c'était territoire ukrainien, une base navale, une base militaire de la marine russe très importante, Sébastopol. Et c'était véritablement une des bases de la marine russe les plus importantes qui permet de dominer tout le commerce sur la mer Noire et la mer d'Azov. Alors, imaginez, cette base-là devient intenable si l'Ukraine entre, ou les forces ukrainiennes entrent en Crimée. Alors ça, ça pourrait faire partie dans les enjeux de « nous allons vous assurer que vous continuerez à avoir une base militaire ». Vous savez, des bases militaires de pays étrangers
en
sol, il y en a partout, là. Hein, prenez-vous au Moyen-Orient, il y a pas mal de bases militaires américaines dans ce coin-là. Alors, ça se pourrait, ça, en échange d'un loyer, d'un dollar pour 10 ans, peu importe. Mais on voit qu'il y a une volonté du côté ukrainien de se donner un rapport de force. On sait qu'il faudra négocier. Et maintenant, la bataille militaire sur le terrain sert à transformer le rapport de force qu'il y aura le jour où on devra s'asseoir.
Et quand on parle de Sébastopol, puis c'est une grande ville, là. C'est la troisième après Moscou et Saint-Pétersbourg en Russie.
C'est très, très, très important, mais c'est surtout au plan militaire. Parce
militaire,
que
oui.
Il faut savoir que, exemple, si vous contrôlez la mer Noire, vous pouvez presque décider si une personne sur deux dans le monde va pouvoir manger. J'exagère, là, mais tout le grain d'Ukraine ou à peu près passe par là. Pas par Sébastopol, mais par Odessa.
Oui.
Alors, vous pouvez pas vous établir tranquillement sur le bord de la mer Noire si il y a une présence hostile installée à Sébastopol. Alors ça fera partie des négociations. Présentement, là, les navires russes sont au large parce qu'ils ont appris, on se souvient, au début de la guerre, le Moskova s'est fait attraper par les forces ukrainiennes. Mais probablement que la Crimée sera un lieu de bataille important, pas pour le contrôle de la Crimée lui-même, mais pour être capable de se donner un rapport de force différent face aux forces russes. Parce que si Vladimir Poutine avait eu l'air d'un héros lorsqu'il a remis la Crimée au sein de la Russie, la Crimée, là, c'est pas un territoire autre, ça fait partie dans les nouvelles lois russes du territoire russe, comme oui. Saint-Pétersbourg, comme la Sibérie, comme Moscou. S'il l'échappe, là, ça devient difficile de dire un peu, là, ça va bien mes affaires, c'est une opération militaire spéciale. Puis aussi, est-ce que ce sera, là, ce que Vladimir Poutine commence à laisser savoir, c'est que c'est ma ligne rouge. Si vous allez là, je réponds plus de rien. Alors, on va voir, c'est loin d'être terminé.
C'est loin d'être terminé et la Crimée va continuer d'être au centre des relations entre la Russie et l'Ukraine, comme l'a été, comme tu l'as si bien décrit, depuis plusieurs siècles. Sébastien. Je me suis fait prendre au jeu. Guillaume Lavoie, merci beaucoup.
Merci beaucoup. Bye bye.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Parce qu'en immobilier, pour être à son affaire, suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
IGA est fier de présenter l'émission À vos affaires. Pour économiser sur votre panier d'épicerie, surveillez les offres et promotions de la circulaire disponible à IGA.net chaque semaine. IGA, vive la bouffe et les bonnes affaires.
Ex-conseillère politique, et ça fait bien notre affaire. Yasmine Abdel-Fadel.
La rencontre. Mais la job d'un chef, à un moment donné, c'est d'avoir un seul message.
Marie, mon petit.
Quand tu changes de voix tous les 4 heures.
Moi, je trouve ça absolument aberrant.
Steve Fortin.
On n'y va plus avec la compétence, l'excellence. Non, c'est plus ça.
La rencontre.
Mais Steve, je pense que la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est exactement ça.
La rencontre. Fortin, mon petit.
David Johnston, le GG des années Stephen Harper, a été nommé rapporteur spécial de Justin Trudeau, comme quoi tout est dans tout et rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Marie, comment as-tu accueilli cette annonce-là?
Ben, moi, je dirais relativement, j'allais dire relativement positivement. Là, tu sais, je pense que c'est quelqu'un qui...
Ça ne peut pas faire de mal.
Ben, tu sais, je regardais certaines réactions sur mon Dieu, il est dans la quasiment, t'as l'impression que c'est le petit cousin de Justin Trudeau là, c'est pas vraiment ça non plus, mais tu sais le gars c'est un ancien gouverneur général, il est habitué d'avoir des brefages de sécurité, tu sais, je veux dire en termes de compétences, puis en termes d'expérience, puis en termes de parcours politique, c'est sûr que c'est un très très bon candidat. Il a déjà fait ce genre de job là dans le cas de Brian Mulroney il y a plusieurs années avec la crise sur Airbus où il avait fallu qu'il définisse, si on veut, les paramètres d'une enquête. Donc, tu sais, le gars, t'as pas plus féru que lui, je pense, à l'heure actuelle pour faire ce travail-là. Une fois qu'on a dit ça, tu sais, j'en reviens toujours à rapporteur. Ça vient pas régler l'enjeu de l'ingérence chinoise. Ça vient pas répondre à l'heure actuelle à toutes les questions auxquelles j'aimerais avoir des réponses. On est toujours dans un contexte d'acheter du temps puis de péter par avant. Mais moi, la candidature, j'ai pas d'enjeu avec ça.
Steve?
Il est pas d'accord.
Okay. Écoute, on est encore une fois pas loin de la Fondation Trudeau, contrairement à Marie.
Ouais, mais c'est quand même pas toxique, la Fondation.
Mais je pense
Trudeau.
Que Canada au complet ou Ottawa au complet était dans cette fondation-là, en plus.
Il faut faire attention. Plus on lit, on me dira, c'est des chroniqueurs qui sont peut-être un petit peu plus à droite, mais moi, quand je lis un gars comme Andrew Coyne, je veux dire, il y a quand même une certaine crédibilité. Puis j'invite les gens à aller lire sa réaction, justement. Ça va sûrement être dans un texte parce qu'il a envoyé une longue enfilade. Puis c'est très révélateur, en fait, de cette volonté, premièrement, de rester quand même à l'intérieur d'un cercle très circonscrit et surtout d'avoir jusqu'à maintenant, en tout cas, parce qu'on sait pas tout, mais il n'y a pas de limite temporelle, il n'y a pas un horizon temporel par rapport au mandat. Puis, tu sais, je veux dire, moi, quand je lisais l'enfilade d'Andrew Coyne, puis on me dit, au minimum, je traduis, là, au minimum, on aurait pu nommer quelqu'un avec qui il n'a absolument aucun lien personnel ou professionnel. Puis, il continue en disant, par exemple, aussi, c'est la responsabilité, c'est la responsabilité en fait dans une question éthique comme celle-là de ne pas laisser transparaître aucune apparence de conflit d'intérêt. On parle pas de conflit d'intérêt, mais même apparence, aucun lien. Mais on est encore trop proche de ça. Puis ça donne toujours l'impression qu'on veut se défiler par tous les moyens. Tu sais, je parlais de la pieuvre l'autre fois, là, toutes les tentacules possibles pour essayer d'éviter d'avoir à faire ça. Puis on dit, mais si jamais ça vient, ça viendra pas de nous, mais on prend quelqu'un après tout qui a aussi dans le passé, et c'est pas mal, mais qui a eu quand même des liens avec la Chine, donc tous les enfants ont étudié en Chine. Je veux dire, tu sais, à un moment donné, tu regardes ça et tu te dis, ben, il y avait pas comme quelqu'un d'autre. Puis pourquoi elle est là de toute façon? Parce que tout le monde réclame la commission d'enquête. Et puis si on a le temps, on viendra peut-être sur ce qui se passe aux élections. C'est à Vancouver, les élections municipales, et ce qui s'est passé. Puis on se rend compte à quel point les tentacules, justement, du gouvernement chinois sont vastes et à quel point ils comprennent dans tous les interstices le fonctionnement de notre système politique et la manière finalement assez simple de l'influencer. Puis ça, ben, c'est pas à travers un rapporteur spécial. Il va falloir quelque chose de plus que ça, puis tout pointe vers la commission d'enquête indépendante complète.
Est-ce que David Johnston risque pas de perdre plus de plumes lui-même, là, puis son leg comme gouverneur général et tout ce qu'il a pu faire au Canada?
Est-ce qu'il peut refuser?
Exactement.
Est-ce qu'il pourrait refuser le mandat? Je me le demande, sincèrement.
Ben, j'imagine
l'a déjà accepté.
Il l'a déjà accepté, puis je pense pas qu'ils ont annoncé ça sur la place publique sans y avoir parlé avant, là, tu sais, dans ce genre de...
toujours commissaire pour le débat, là, pour la commission ou pour le débat des chefs. Je veux dire, c'était lui qui était là. On a vu comment ça s'est passé, le débat des chefs, justement, au
non, mais c'est
fédéral,
sûr qu'ils ont... Ce que je veux dire, c'est que c'est sûr qu'ils ont... Je veux dire, tu mandates pas quelqu'un sans avoir tendu la perche, sans avoir évalué ça. Donc, c'est sûr qu'il a fait cette évaluation-là puis qu'il l'accepte. Est-ce qu'il va perdre plus de plumes? Moi, je pense que ça va énerver les gens 48 heures, là, 24 heures, là, puis...
Ils vont passer à autre chose.
Non, mais on passera pas à autre chose en termes de dossier, mais ce que je veux dire sur la candidature, je suis pas convaincue que ça va traîner très longtemps dans le débat public. Là, on va revenir plus à la question de est-ce qu'on, sur le registre, entre autres, on peut-tu faire le registre au lieu de faire des consultations? Tout le pelletage par en avant qu'a fait le gouvernement Trudeau, là, ça, c'est un des éléments, bon, le rapporteur spécial, mais il y a plein d'autres éléments qui sont vraiment loin d'être réglés, là.
Il y a aussi la question de savoir le rapport du rapporteur spécial qu'il va remettre au premier ministre. Un, va-t-il être rendu public dans son intégralité? Il faudrait un strict minimum. Et deux, les partis politiques de l'opposition n'ont pas, en fait, particulièrement le NPD, Jack Meetsing n'a pas voulu s'engager à respecter ou accepter les recommandations de David Johnston. Ça sert à quoi dans ce temps-là?
Ben, il faut qu'il soit... Moi, j'ai toujours eu un inconfort quand le gouvernement, puis ça, on le voit au provincial à quelques reprises, là, quand un gouvernement va nommer quelqu'un sur une... c'est pas une commission d'enquête dans ce cas-là, mais va nommer, mandater quelqu'un pour faire un travail à même des fonds publics aussi, là. Je veux dire, j'ai plus qu'un profond malaise quand ces rapports-là ne sont pas publiés dans leur intégralité pour être vus et connus de tous. Donc oui, ça doit être, c'est sûr que ça doit être public, là. Puis de toute façon, on est dans un enjeu de transparence dans ce dossier-là depuis le début. Donc là, s'ils veulent continuer de pelleter leur propre tombe en faisant de l'obstruction sur la transparence, ben là, qu'ils publient pas le rapport, ça va être parfait, là.
Mais il y aura l'angle de la sécurité nationale à un moment donné qui pourrait entrer et même peut-être de façon légitime, là, sait-on jamais, parce que mais moi je pense qu'à un moment donné il y aura l'angle de la question de la sécurité nationale ou qui pourrait faire en sorte que par exemple des morceaux de ça, des sections de ça ne soient pas publics. Mais de toute façon, l'exercice lui-même pour moi demeure encore une fois un instrument, comme on dit au Québec, une patente à gosse pour essayer de passer à côté du principal. Et là aussi, ce que je lis dans le Canada anglais, c'est que on a peur que tout ça serve à pelleter le dossier plus loin que l'horizon de la prochaine campagne fédérale. Puis ça commence à agacer sérieusement. Et pour les gens que ça intéresse, Angus Reid a publié un sondage hier. Puis, parmi les questions, ben il y a justement cette question-là. Comment ne pas sonder les gens sur cette question-là si on sonde les intentions de vote? Parce que c'est souvent comme ça que ça fonctionne dans cette industrie-là. On va sonder les intentions de vote au fédéral cette fois-ci, mais on va aussi les questionner sur les enjeux qui sont à l'ordre du jour. Puis dans ce cas-ci, je veux dire, c'est sans appel. Peu importe, si on veut, là, l'inclinaison politique, les gens veulent avoir la vérité. Puis il n'y a pas de chemin gagnant pour Justin Trudeau là-dedans.
C'est sûr qu'il est perdant, peu importe l'issue, c'est soit il aura trop tardé, soit il n'aura pas assez agi. Chose certaine, c'est qu'on va toujours finir par lui reprocher quelque chose. Est-ce que vous pensez que Justin Trudeau va se représenter aux prochaines élections?
Wow!
Oui.
Malgré le dossier de la Chine.
C'est juste ça que tu laisses voir.
Oui.
Oui. Moi, je pense qu'on. Écoute, je dis ça. Je crois que la venue de M. Poilievre, ça a l'air de l'avoir très stimulé à retourner faire une campagne électorale puis à défendre son leg. Puis c'est vrai que. Tu sais, quand tu prends la décision de te représenter ou de pas te représenter en politique, bon, c'est sûr qu'il y a des questions familiales, il y a d'autres enjeux, mais tu fais un peu l'évaluation aussi de ce que ça veut dire quitter par rapport à ce que tu as fait dans le passé. Oui. Tu sais, donc là, ça fait quand même depuis 2015 qu'il est là. Il a donné une direction au Canada, que ça nous plaise ou que ça nous plaise pas, mais il y a quand même, tu sais, des enjeux de justice sociale, de valeurs fondamentales, environnementales et compagnie. Puis tu as M. Poilievre qui arrive quand même avec l'opposé dans certaines choses. Donc, je pense qu'il est stimulé d'y retourner pour protéger non seulement ce leg-là, mais pour protéger l'avenir du Canada, les jeunes générations. On l'entend là-dessus. Ça, je pense qu'il est très sincère quand il dit ça.
Mais est-ce que c'est motivant de se représenter lorsqu'il y a la question de la Chine?
Bien, sais-tu pourquoi je suis d'accord avec toi, Marie? Quand on regarde justement l'approbation de Pierre Poilievre par province, là, on l'approuve bien entendu très favorablement à Saskatchewan, en Alberta, on s'en attendait, mais plus on défile, on s'aperçoit Ontario moins 19%, Québec moins 32%, cette province là qui est donc bien raciste, là, moins 32%, Nouvelle-Écosse, tout le reste après ça, moins 35%, moins 41%, Justin Trudeau veut en découdre avec Pierre Poilievre, idéologiquement, ce combat-là, lui, il se sent à l'aise avec ça, puis on verra ensuite, mais moi, je pense que vraiment, il veut en découdre avec Pierre Poilievre parce que c'est justement le type d'adversaire contre lequel, lui, il pense qu'il pourra bien performer. Maintenant, on verra. De toute façon, cet horizon-là des prochaines élections, moi, je pense qu'elle se rétrécit de plus en plus. Toutefois, il faut toujours garder en ligne de compte qu'il y a aussi un calendrier d'élections provinciales au Canada. Puis, c'est bien possible que ce calendrier-là rétrécisse l'horizon pour le fédéral de déclencher des élections.
Mais Steve, t'es conscient qu'Yasmine est en train de nous faire parler parce que là, la prochaine étape, c'est qu'elle va partir un pool, elle va nous faire parier. Là, elle commence à bonifier sa retraite avec ses différents paris.
Grâce à vous, là, voilà. Je mets de l'argent en VR. Regardez, avec les deux pièces que j'ai gagnées lundi, là. D'ailleurs, j'attends encore mon virement. Hein, Steve?
2,30 taxable.
2,30. Merci beaucoup. On se retrouve demain.
À demain.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin,
celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Parce qu'en immobilier, faut être à son affaire. Suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
IGA est fier de présenter l'émission À vos affaires. Pour économiser sur votre panier d'épicerie, surveillez les offres et promotions de la circulaire disponible à IGA.net chaque semaine. IGA, vive la bouffe et les bonnes affaires.
Vous écoutez Yasmine Abdel-Fadel.
Cube Radio.
La presse dévoilait récemment qu'il y avait une inquiétude à propos des sous-vêtements menstruels dits biologiques qui contiendraient des contaminants d'intérêt émergent. Qu'est-ce que ça veut dire? Aucune idée. Tout ce qu'on sait, c'est que des femmes qui portent des sous-vêtements menstruels sont inquiètes. Elles ont raison d'être inquiètes parce qu'il y aurait des produits chimiques là-dedans qui peuvent avoir des conséquences sur la santé, leur santé. On a décidé de parler avec Raquel Tulk, présidente des produits RDC Vita, qui est avec nous en studio aujourd'hui. Bonjour, Madame Tulk.
Bonjour, merci de me recevoir.
Expliquez-nous, les produits que vous offrez sont les seuls ou arrivent à tout le moins en premier rang de ceux, de tous les sous-vêtements menstruels qui ne contiennent pas de ces produits chimiques-là. Pourquoi?
Donc, je pense que premièrement, expliquer qu'est-ce qu'il y a dans les produits. Il y a une entreprise qui a été prise récemment avec des PFAS, qui sont des produits chimiques synthétiques retrouvés dans leurs sous-vêtements. Donc, c'est quoi en gros un PFAS? C'est un produit chimique qui est retrouvé dans la plupart des choses qu'on consomme quotidiennement. Et c'est à quel degré est-ce que ça va être nocif pour notre santé?
Toxique,
exactement. Donc, la compagnie menstruelle a été prise avec des PFAS et eux disaient à leurs consommateurs, consommatrices, qu'il n'y en avait pas. Donc, c'est là la grosse problématique.
Et ça a quoi comme effet sur le matériel utilisé? Est-ce que c'est pour le rendre plus doux, plus absorbant? Pourquoi on utilise ces produits-là?
Donc, on l'utiliserait pour l'antibactérien et pour l'antitache. Et des fois, on a des manufactures qui vont le mettre pour que ça soit même plus absorbant. Donc, dans la niche qu'on est de produits menstruels lavables et réutilisables, l'enjeu qu'on a, c'est l'absorption. On veut être aussi absorbant qu'un produit jetable, mais on veut être réutilisable. Donc, on veut aussi que ça soit anti-tache pour qu'une consommatrice qui est habituée à un produit jetable ne voit pas la grande différence entre les deux.
Il n'y a pas de sacrifice à faire en matière d'absorption, notamment.
Exact.
Expliquez-nous pourquoi vous avez décidé qu'il n'y aurait pas dans vos produits.
Nous, ça fait 12 ans qu'on a une technologie brevetée. Donc, pour nous, c'est vraiment pas nouveau. On n'a jamais eu de PFAS dans nos produits. Ça a été quelque chose qui était une de nos valeurs dès qu'on a commencé. Donc, on n'a pas utilisé ce produit-là. Pourquoi? Parce que on y a pensé il y a 12 ans. On a dit la santé de nos consommatrices, c'est une valeur super, super importante. Donc, peut-être que le prix peut être un petit peu plus élevé pour un produit qui n'utilise pas des produits chimiques, mais est-ce que ça vaut ta santé? Je pense pas.
Vos produits, quand on dit produits menstruels, là, j'ai l'impression que c'est tellement large, ça veut dire tout et rien en même temps. Il y a cette nouvelle mode de mettre de côté les tampons, les serviettes hygiéniques et d'adopter ce qu'on appelle des sous-vêtements menstruels. Mais ils n'ont pas pour objectif que d'absorber des menstruations, ces sous-vêtements, à moins que je me trompe?
Non, exactement. Donc, nous, il y a 12 ans, on a commencé avec un produit pour l'incontinence. Donc, une femme sur trois souffre d'incontinence légère, surtout après l'accouchement. Et tout récemment, il y a 2 ans, nos clientes nous ont supplié d'avoir un produit pour menstruation. Et c'est là qu'on a développé le produit qui vient de sortir pour menstruation, qui est d'ailleurs...
Mais ça diffère en quoi un produit de menstruation versus un produit pour l'incontinence, par exemple?
C'est vraiment comment la technologie est placée dans le sous-vêtement, parce que la densité du sang et de l'urine est complètement différente. Donc, notre sous-vêtement de menstruation va avoir la technologie jusqu'en haut du sous-vêtement, tandis que celui pour l'urine va avoir moins de couverture.
Et est-ce qu'il y a un âge particulier pour lequel ces sous-vêtements menstruels peuvent être utilisés? Tu sais, je pense aussi aux personnes âgées qui peuvent avoir des problèmes d'incontinence. Comment faire la différence entre des problèmes d'incontinence pour femmes post-accouchement et une personne âgée qui, avec l'âge, a développé ça? Est-ce que les produits restent les mêmes?
La beauté de notre produit, c'est qu'on suit une femme pendant toute sa vie. Donc, on a des mamans qui ont acheté les produits pour les premières menstruations de leur fille. Et on va jusqu'à une femme plus mature qui a une incontinence légère. Donc, je dis légère parce que, oui, je pense qu'il y a un moment dans notre vie où ça va être peut-être un peu trop et on va devoir se tourner à d'autres produits. Mais on est là du début des menstruations jusqu'à une femme mature.
Ménopausée, mais qui commence à avoir des problèmes d'incontinence potentiellement.
Exact.
Les sous-vêtements menstruels, c'est un marché important au Québec?
Ça devient un marché hyper important. Les gens commencent à réaliser que les produits jetables, eux, ont des PFAS et ça fait des décennies qu'ils passent en dessous du radar. Les serviettes sanitaires ont des PFAS, les tampons ont des PFAS et on devient vraiment plus conscient de qu'est-ce qu'on met dans notre corps.
Est-ce qu'on peut porter des culottes, des sous-vêtements menstruels quand on n'a pas de menstruation?
Absolument. Je vais être super transparente en tant que femme. On a des pertes vaginales et c'est pas juste du sang, ça va être des pertes blanches, des pertes. On a un cycle menstruel, mais on a un cycle mensuel aussi. Oui. Donc, durant le mois, il y a plein de choses qui arrivent dans notre corps et il y a plein de sécrétions qui arrivent aussi.
Un peu comme lorsqu'il y a des protèges dessous que certaines personnes portent hors menstruation.
Exact.
C'est très intéressant. Comment les Québécoises adoptent des sous-vêtements menstruels, disons, où est-ce qu'on peut acheter ça? Est-ce que c'est des produits, disons, dans des magasins biologiques où je caricature, ce sont des granos qui vont là parce qu'ils aiment les trucs lavables? Tu sais, je vous donne un exemple. Je suis une maman. Moi, les couches lavables, là, c'est non pour moi. Je peux pas. Ça me demande trop d'énergie. Je trouve pas ça nécessairement hygiénique. Pour moi, de mon point de vue, est-ce que c'est le même discours pour les sous-vêtements menstruels?
Écoute, je suis une maman aussi et j'ai pas opté pour les couches réutilisables parce que c'était la première fois que j'étais maman, il y avait une inquiétude et tout, mais c'est ça la beauté de Vita. C'est que on n'est pas obligé de porter Vita. On vous demande pas de changer comment vous utilisez vos produits menstruels. Donc, si vous dites impossible que je change d'un tampon à un produit Vita, faites-le juste pendant la nuit ou faites-le juste à la fin de vos menstruations. Je pense que en tant que femme, c'est la pire chose de mettre un tampon quand numéro un, t'es pas menstruée, ou les journées où tu dis peut-être que je vais être menstruée. Donc, si tu élimines le produit jetable pour juste 10 % de tes menstruations, déjà, tu as fait un pas écologique. Donc, je pense qu'on a l'impression de la femme grano qui doit être... C'est super, une femme qui opte à vraiment faire un changement, mais pourquoi on doit être tout le temps à l'extrême? On peut être coquette et soucieuse de l'environnement. On peut être fashion et soucieuse de l'environnement. Il n'y a pas un qui va sans l'autre.
Où est-ce qu'on peut trouver ces produits?
Donc, ils se retrouvent, au Rachel Berry. Donc, on a fait une distribution récemment avec Rachel Berry, mais toute notre collection se retrouve sur notre site web vitaprotection.com.
Raquel Tulk, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Vous êtes présidente des produits DRC Vita. Merci.
Merci à vous.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin.
Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Parce qu'en immobilier, faut être à son affaire. Suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
IGA est fier de présenter l'émission À vos affaires. Pour économiser sur votre panier d'épicerie, surveillez les offres et promotions de la circulaire disponible à IGA.net chaque semaine. IGA, vive la bouffe et les bonnes affaires.
Yasmine Abdel-Fadel.
Pour nous rejoindre en studio.
Studio à commercial cube.radio. Appelez ou textez.
187 cube radio.
1877 827 2346. Cube radio.
En direct à LCN.
14h30, on va joindre la collègue Yasmine Abdel-Fadel dans les studios de Cube. Bonjour Yasmine.
Bonjour Marianne.
On doit parler évidemment de la fonderie Horn, déplacement, déracinement dans certains cas de quelques 200 familles qui vivent à proximité finalement de la fonderie. On crée une zone tampon qu'on va verdir, semble-t-il, aux frais de la fonderie comme telle. Est-ce que c'est normal qu'on ait dû se rendre là, Yasmine?
Non. Non, ce dossier-là, dès le début, il n'aurait pas fallu qu'on se ronde là. Il n'aurait pas fallu exposer déjà les populations aux émanations des différents composants chimiques de la fonderie. Tout ça, ben, on ne peut malheureusement rien y changer, mais je suis bien contente qu'enfin on puisse se rendre compte et qu'on puisse avouer de manière tacite qu'il y a un problème avec ces émanations-là et que ça peut toucher la santé de ceux qui habitent tout proche de la fonderie Horn. Maintenant que c'est dit, maintenant que la fonderie Horn veut s'engager, que Glencore, la compagnie à qui appartient la fonderie Horn, veut contribuer à créer cette zone tampon, là où moi je décroche, c'est quand je sais que le gouvernement du Québec va aussi contribuer à la relocalisation de ces familles. Pourquoi le gouvernement du Québec doit mettre de l'argent dans ses poches plutôt que Glencore, une compagnie milliardaire qui a bien les capacités à défrayer cet argent-là pour déplacer ses familles et les compenser pour ce dérangement-là? Personne ne veut se faire dire... Ouais, on pense que on devrait là où t'habites, c'est une zone tampon parce que il pourrait y avoir une exposition accrue à des composants chimiques. La compagnie, si elle veut continuer à opérer, je suis pas mal sûre qu'elle a envie de continuer à opérer parce qu'elle fait pas mal plus de sous que ce qu'elle aurait à compenser. Ben, qu'elle mette l'argent dans ses poches puis qu'elle assume la totalité de ce déplacement-là. C'est pas au gouvernement du Québec à le faire. Et je ne vois pas pourquoi on ne serre pas la vis de manière supplémentaire là-dessus. Je sais qu'aujourd'hui, on a annoncé une série de mesures pour s'assurer que la fonderie Horn va respecter les différentes normes, notamment en arsenic, mais pas juste en arsenic, au courant des prochaines années, d'ici 2027. Mais ça aurait dû faire partie des discussions également. Ce n'est pas à Québec et à nous, Québécois, de payer pour créer cette zone tampon. C'est à la fonderie Horn.
Mais est-ce que c'était pas au gouvernement, Yasmine, justement, d'obliger la fonderie Horn à agir autrement pendant toutes ces années? Il y a ça aussi comme question.
Bien évidemment, bien évidemment. Et faut se rappeler comment la fonderie Horn et ce scandale-là a été mis sous la lumière du jour. Rappelons-nous que c'était en plein été où on avait appris qu'il y avait un rapport que l'ancien directeur de la santé publique, Dr. Horacio Arruda, avait fait en sorte de ne pas publier parce que ça allait mettre le gouvernement dans l'embarras. Donc, depuis le début, ça manquait de transparence. Ensuite, on a tergiversé pour finalement trouver un accord qui a été annoncé fin octobre, il me semble, avec une diminution graduelle des émanations. Mais ça reste quand même assez particulier, le rapport de force qu'on n'est pas en mesure d'installer avec la fonderie Horn. La fonderie Horn a un rapport de force qui est à son avantage. On sait qu'il n'y a pas de capacité de diversification économique dans la région, du moins pas à court terme. Donc, ce sont plusieurs emplois rémunérateurs importants pour la région.
Ouais.
Et visiblement, on est capable de faire beaucoup de concessions en ce sens.
Par ailleurs, parlons de ce questionnaire qui a donc des patients du réseau de la santé qui vont être invités à remplir pour tester leur satisfaction. Comme après un rendez-vous pour changer les pneus, par exemple, on nous envoie souvent un courriel pour connaître notre satisfaction. Vous voyez là des exemples de points qu'on va devoir juger, donner une note de 0 à 10. Information reçue était facile à comprendre. Est-ce que on a eu assez de temps pour poser nos questions? On va dire sur 0 à 10. Est-ce que vous avez reçu les informations nécessaires pour guider votre prise de décision? Voyez, vos valeurs, vos préoccupations ont été considérées ou on m'a bousculé un peu là, à travers tout ça. Est-ce que les délais d'attente étaient acceptables? On a hâte de voir quand même les réponses. Et est-ce qu'il y a eu une bonne communication à propos de vos soins entre les membres du personnel? Ce sont le genre de points qui vont être jugés. Est-ce que tu penses que c'est une bonne idée, Yasmine? Est-ce que ça peut pousser certains établissements à penser davantage en fonction de la clientèle, par exemple?
Bien, je me dis pourquoi pas, parce que dans le gros débat du système de santé puis à quel point il ne répond pas à la population et à ses besoins, ce qu'on n'entend jamais, parce que tu sais, on entend très bien les syndicats, on entend les CIS, les CIUS, les professionnels, les médecins, les infirmières, le gouvernement, celui qu'on n'entend jamais, c'est bien le citoyen qui c'est lui qui doit passer des heures durant dans les urgences à attendre puis ne pas oser faire trop de bruit de peur de se faire mettre un petit peu sur la voie de côté. C'est toujours un peu, on ne sait pas dans quelle priorité on est mis, selon quoi on, comment on nous a placés dans cette priorité-là, ça veut dire quoi sur nos délais d'attente. On est un peu dans le néant, puis on ne veut pas trop déranger parce qu'on sait qu'ils sont débordés. Savoir qu'on va avoir une évaluation de l'expérience contribuable, là, parce qu'après tout, c'est ce qu'on est, l'expérience patient aux urgences, me semble que c'est intéressant, puis va permettre à la population d'avoir aussi son mot à dire sur les services de santé, va aussi pouvoir s'exprimer cette expérience à l'air de quoi. Et cet enseignement-là, tu l'as dit très bien, Marianne, les entreprises privées le font pour n'importe quelle bébelle qu'on achèterait en magasin, ben pourquoi pas le service de santé? Pourquoi ne pas tirer profit de cette expérience du privé puis essayer de l'appliquer au domaine public et de manière à identifier et avoir des indicateurs de performance sur des points bien précis? Je salue cette initiative du gouvernement.
Ça sera intéressant de voir les réponses, d'ailleurs, des gens. Merci beaucoup, Yasmine.
Merci, Marianne.
Bonne fin de journée.
Et voilà qui conclut l'émission d'aujourd'hui. Je vous laisse avec ma collègue Sophie Durocher. Je vous donne rendez-vous dès demain, 13h30.
Cube Radio.